Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine, édition du 2 novembre 2017. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en régie, je salue mon précieux collaborateur, Mathieu, sans qui je ne suis rien.
Non, c'est pas vrai, vous seriez seul. Pas rien.
En effet, nous passerons ensemble la prochaine heure, chers auditeurs, mes deux collaborateurs habituels étant appelés ailleurs aujourd'hui. Je vous présenterai d'abord deux écoles où les enseignants essaient de rendre les élèves plus actifs, d'abord en aménageant la cour de récréation et en faisant la classe dehors. On leur souhaite que ce ne soit pas nécessairement...
Comme aujourd'hui.
Ensuite, je vous lirai un billet de blog où l'auteur réfléchit à l'orientation sexuelle de ses garçons. Et puis, on verra que la persévérance, ça s'apprend et que la supervision parentale, c'est important pour la réussite scolaire des adolescents. Et finalement, on parle de YouTube et des jeunes. C'est parti! Alors d'abord, récréations actives quand l'aménagement d'une cour d'école incite les jeunes à bouger. C'est un texte de Tatiana Polevoy, est-ce qu'on dit Polevoy ou Polevoy, je ne sais pas, publié sur le site 100degrés.ca le 23 octobre. Quand Julie Caillé et ses collègues ont aménagé dans leur rutilante nouvelle école à Sherbrooke, il y a 3 ans, ils se sont donné pour mission d'aménager la cour la plus active possible. On a eu la chance d'avoir une cour d'école vierge à l'école du Boisé Fabi, raconte l'ancienne enseignante d'éducation physique devenue depuis directrice. Il y avait une cour asphaltée et rien du tout dessus. On a pu réfléchir, bâtir et imaginer ce qu'on souhaitait. Cette belle idée de construire une nouvelle cour d'école n'a pas mis beaucoup de temps à grandir. Elle a rapidement rassemblé quelques passionnés qui ont formé un comité pour mettre le projet en œuvre. Il faut dire que Julie Caillé possédait une expertise en la matière, elle qui avait participé à la refonte de la cour de son ancienne école et qui avait été répondante pour École en santé. Des leviers comme le document « Ma cour, un monde de plaisir » ainsi que la formation « Ensemble vers le même but » ont également été mis à contribution et se sont avérés fort utiles. Rapidement, les grandes lignes de l'aménagement se sont dessinées. On voulait miser sur des créations actives, je recommence, on voulait miser sur des récréations actives et diversifiées. Il nous importait aussi d'adapter notre cours d'école aux 4 saisons. La démarche, laisser vivre les élèves dans la cour pendant quelque temps. Où jouaient-ils au ballon? Où avaient-ils tendance à se diriger naturellement pour se rassembler? L'idée de délimiter la cour d'école en différentes zones a rapidement suscité l'unanimité au sein du comité. Aujourd'hui, la cour regorge de possibilités d'activités. Alors voici les zones dans lesquelles les jeunes peuvent s'activer. D'abord, une zone de jeu de ballon, avec des paniers de basket et des ballons poires. Des terrains pour le ballon chasseur et le soccer. Jusqu'à maintenant, ça ressemble pas mal à ce qui est habituel dans les cours d'école. Mais ça diffère ici. Une zone musicale avec un système de son pour danser, une zone motrice où on peut pratiquer la corde à sauter, le cloche-pied, jouer aux élastiques ou à des jeux de marelle, des carrés pour des jeux collectifs comme le ballon king, la tag, le ballon king, je ne sais pas ce que c'est, la tag, le diamant ou le policier voleur, une zone de marche destinée à ceux qui veulent marcher tout simplement sans jouer avec un ballon ou le recevoir, une zone gazonnée pour la gymnastique et les culbutes, une zone détente avec un espace ombragé et une zone créative et artistique avec des craies, des ardoises, des accessoires de théâtre. C'est chouette.
Je me demandais jusqu'à maintenant où je me serais ramassé, mais là, je pense que c'est assez clair.
Oui, hein? Avec les zones, l'idée était de créer un horaire pour que les élèves puissent faire la rotation chaque jour de la semaine, explique Julie Caillé. Ça crée des options intéressantes pour les jeunes lorsqu'ils arrivent à la récré. À noter, ces rotations permettent d'aller jouer avec des copains de d'autres classes ou de d'autres niveaux. Cet aménagement très encadré a engendré une diversification des activités pratiquées par les élèves au moment de la récréation, constate la directrice. Cela évite également que les mêmes jeunes décident des mêmes jeux à répétition. Le comité était aussi soucieux d'offrir des récrés actives à longueur d'année, même l'hiver. Les zones de jeu ont donc été adaptées en conséquence. Un espace pour construire des forts et des bonhommes de neige a été désigné. Sans surprise, une butte où la glissade sur les fesses était permise s'est avérée fort populaire. Des petites pelles en plastique ont été également achetées. Et pour structurer cette envie qui nous prend tous, même adultes, soyons honnêtes, de lancer des balles de neige, les profs ont dû se montrer ingénieux. On a récupéré des vieux coroplastes de pancartes électorales qu'on a transformé en cible pour lancer des balles de neige, raconte Mme Caillé. C'est vraiment chouette.
Une belle idée.
Oui, nous les avons collés dos à dos, puis nous y avons dessiné de grosses cibles et collé des petits crochets. C'est tellement léger que les enfants pouvaient manipuler les cibles facilement et les accrocher eux-mêmes sur la clôture. Avec son bagage d'enseignante en éducation physique, Julie Caillé n'a pas à être convaincue de l'importance d'encourager les élèves à être physiquement plus actifs. C'est toujours triste de voir des élèves qui ne font rien dans la cour, constate-t-elle. Les études le démontrent, c'est pendant les récrés et les périodes de transition que l'intimidation et la violence prennent forme. Voilà pourquoi on a tout intérêt à s'occuper de nos cours d'école. Alors voilà ce texte de Tatiana Polevoy, ou Polevoy, publié sur le site 100degrés.ca le 23 octobre.
J'inviterai l'enfance à s'attarder le temps qu'il faut, qu'elle empoche des images pour les soirées d'hiver, pour les longues, longues heures de l'adulte qui n'en finit pas de pousser sur l'ennui. Deux clairons dans tes bagages, un air de flûte, une botte de légumes, du vin, le sourire de quelqu'un mort, une trace qui mène à l'île perdue, un anneau d'or, un masque drôle. Quand absent est l'amour et que tes frères sont morts, quand présent est le vide et que la nuit demeure, les rêves sont bien nécessaires. Et les enfants nouveaux poseront dans la main de l'homme seul les leurs ouvertes, chaudes et nues. J'inviterai l'enfance à s'attarder le temps qu'il faut.
Ah, petite pause musicale et poétique. C'était évidemment Chloé Sainte-Marie qui nous chantait, nous récitait, lisait, nous parlait dans le creux de l'oreille. J'inviterai l'enfance de Félix Leclerc.
C'était très joli. Alors, on fait suite avec cet article de Marco Fortier, publié dans Le Devoir le 28 octobre. Et le titre, c'est « Aujourd'hui, on fait la classe dehors ». C'était une vraie journée d'automne. Les feuilles des arbres volaient au vent. Le ciel gris se faisait menaçant. Les 45 élèves de 6e année de l'école primaire Laurentide sont arrivés en placotant, de bonne humeur, au parc Basile-Routier, dans le nord de Montréal. Ce jour-là, tous les cours pour les élèves de ces trois groupes prenaient place en plein air, ou dans le magnifique pavillon d'accueil du parc, aux larges fenêtres donnant sur la rivière des Prairies. Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien lu, des enseignants ont décidé d'amener leurs élèves dans un parc municipal toute la journée. Pour les enfants de 6e année de l'école Laurentide, c'est comme ça une journée complète, toutes les deux semaines. Tout le monde dehors, beau temps, mauvais temps. Ce projet a vu le jour sous l'impulsion d'un groupe d'enseignants allumés de l'école Laurentide. Ils se sont inspirés d'un mouvement scandinave qui prône l'éducation en plein air. Ce courant, appelé, et vous m'excuserez pour mon accent scandinave, ou de se coller, la classe en nature gagne du terrain au Québec. L'école en plein air a un effet direct sur les enfants. Ils sont enthousiastes, calmes et concentrés, dit Yannick Lacoste, l'un des instigateurs du projet à l'École Laurentide. Le projet pilote en est à sa deuxième année. Cette école primaire, située dans l'arrondissement de Saint-Laurent, accueille près de 500 élèves, dont la vaste majorité provient de l'immigration. De Syrie, du Liban, d'Arabie Saoudite, des pays du Maghreb et de beaucoup d'autres. C'est une école défavorisée. Une bonne partie de ces élèves habitent dans des tours bétonnées dans le quartier Chamerand, surnommé le Petit Beyrouth, enclavé entre l'autoroute 15, de grands boulevards et une voie ferrée. Yannick Lacoste et ses collègues sont un peu fous. C'est le genre d'enseignants qui changent la vie de leurs élèves. Par exemple, ils vont chercher les élèves à vélo dans le quartier Chamerand. Matin et soir, durant les beaux jours, ils roulent en peloton avec les enfants et prouvent qu'on peut se déplacer sur deux roues sans risquer sa vie. Pour le moment, au parc Basile Routier, Yannick Lacoste a divisé les élèves en deux groupes, un qui commence la journée à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Au menu, une chasse au trésor où les enfants doivent recourir à des notions apprises en mathématiques pour lire un plan cartésien. Au signal du départ, les membres de chaque équipe sont partis en courant. Ils ont passé plus d'une heure à chercher des lettres cachées par les profs un peu partout dans le parc. Yannick Lacoste et son collègue Jocelyn Beaulieu, deux enseignants en éducation physique, supervisent le groupe. Dans le bois, je me sens comme un aventurier. J'explore, je me sens libre d'aller où je veux, dit Hamza. Lui et ses amis nomment les noms d'oiseaux appris depuis le début de l'année scolaire. Cardinal, mésange, urubu à tête rouge, merle d'Amérique. Un peu avant l'heure du midi, Elina est surprise. « Est-ce que la moitié de la journée est déjà passée? Je pensais qu'on était ici depuis 5 minutes. » Leïla, elle, écoute le bruissement des feuilles dans les arbres. « C'est un bruit que j'aime. Je me sens calme dehors et la journée passe vite. » À l'intérieur du pavillon d'accueil, les enseignantes Isabelle Chevalier, Sandra Bidot et Patricia Thon donnent une leçon de maths à 22 élèves. L'orthopédagogue Patricia Vermette s'occupe de 3 enfants qui ont plus de difficultés. Les élèves travaillent dans le calme, il n'y en a pas un qui chiale. C'est fascinant de voir à quel point les élèves sont concentrés, dit l'orthopédagogue. Le ministre de l'Éducation parle de l'école de demain, on en est un exemple. C'est un modèle qui fonctionne en Scandinavie, on pense qu'il pourrait inspirer d'autres écoles au Québec, ajoute l'enseignante Isabelle Chevalier. Le plus gros obstacle est le coût du transport. Les enseignants rêvent d'une entente avec la Société de transport de Montréal qui leur permettrait de voyager gratuitement en bus ou en métro. Ces profs font des miracles avec peu de moyens. Ils ont déniché des skis de fond, des raquettes et des patins pour tout le monde. C'est encore plus important de sortir l'hiver, dit Yannick Lacoste. Les enfants apprennent à se vêtir pour profiter de la neige. Leurs parents apprennent aussi. Plusieurs nous disent qu'ils ont peur pour leurs enfants en hiver. La classe en nature force les élèves à sortir de leur zone de confort, souligne Marie-Claude Rivard, professeure au département des sciences de l'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle et son collègue Claude Dugas suivent de près le phénomène de l'udescolé dans les pays scandinaves. On vit dans une époque où le contrôle parental et l'hypersécurité dominent, dit-elle. Dans la nature, les enfants apprennent à prendre des risques et à se faire confiance. Dans certains pays européens, des écoliers passent 8 heures par jour dehors.
Je sais qu'en Allemagne, ça se fait beaucoup.
Oui, ouais. C'est fascinant ça. Vraiment, c'est intéressant. Alors, ils peuvent grimper aux arbres et utiliser un canif dans certains pays européens. De jeunes enfants peuvent marcher 2 ou 3 kilomètres en pleine forêt. Ils en sont capables. Les parents seront heureux de constater un autre avantage du programme. Il montre aux jeunes qu'il y a mieux à faire que de pitonner sur un écran. Alors voilà, ce texte était de Marco Fortier et il a été publié dans Le Devoir le 28 octobre.
Merci beaucoup.
T'aurais dû rester dans ton bois chez vous. Montréal craque sous les roues du Bessic. Je vois dégonfler la ville. J'ai mis des pneus à clous. Garde sur ta chambre à coucher, tu reviens-tu pour souper? Tiens-toi sur le calorifère pour survivre à l'hiver. Tu t'en vas hiberner dans le métro, puis ce sera ta tanière.
Chasse pareille, berceuse pour les enfants, les oiseaux d'hiver que l'on retrouve sur son album Les oiseaux d'hiver. Et si vous avez aimé, il sera, sachez ma chère Marie, au Vert Bouteille lundi prochain, le 6 novembre, dans le cadre des coups de cœur francophones.
Francophone.
Eh oui. Alors, il sera accompagné de Mathieu Bérubé et de MCC.
Oui.
Mais ça vaut la peine d'aller le voir.
C'est intéressant. Hein? Oui. Très intéressant. Alors donc. Un prochain texte maintenant qui va ailleurs, c'est un billet de Fier Père, évidemment c'est son nom de plume, qui a été publié dans la section blog du site naitreetgrandir.com le 25 octobre. Et le titre de ce texte, c'est « Orientation sexuelle, le réflexe des parents ». J'ai le souvenir d'une discussion en famille lorsque mon frère est sorti de la garde-robe. Ma mère a dit « Tu avais 2 ans et je me doutais que tu étais sûrement gay. Nous avons tous réagi en nous moquant un peu d'elle, comme si à 2 ans, elle pouvait savoir. Mais maintenant, je sais que l'instinct parental peut faire de nous d'excellents cryptologues. Et parfois, il peut arriver que certains codes ou préjugés établis viennent s'ajouter à cet instinct. Même si on ne veut pas être alimenté et influencé par les stéréotypes, ceux-ci ont la fâcheuse habitude de nous tirer par l'oreille pour nous rappeler qu'ils existent. Il est donc possible qu'un jour ou l'autre, on en vienne à la réflexion suivante, celle qui me trotte parfois en tête. Mon enfant serait-il gay? Se poser réellement la question a l'effet d'une révélation. Nous constatons qu'il se pourrait que la catégorisation imposée depuis le début à notre enfant ne soit pas la bonne, qu'il existe une autre option qu'on oublie trop souvent. J'ai la chance d'avoir un frère homosexuel. Il est en couple. Alors pour mes gars, ça fait partie de leur environnement familial. Ils savent qu'il y a justement d'autres options et j'espère qu'ils se sentiront toujours libres de montrer leur vraie couleur, même si elle diffère du plus grand pourcentage. Vous vous dites peut-être que je suis intense de penser ça, que mes gars sont pas mal jeunes pour les embarquer dans cette réflexion, mais avouez que vous avez déjà demandé à un enfant « As-tu eu un petit amoureux ou une petite amoureuse à la garderie, toi? » Que vous avez déjà tous matché votre petite dernière avec le garçon de votre ami? C'était des blagues, bien entendu, mais quand même, la catégorisation y était. Bien sûr qu'il me dit des fois qu'il a une amoureuse par jeu, parce que c'est ce qu'ils font à la garderie. Ils jouent au grand. Peut-être parce qu'on ne parle pas aux enfants d'orientation sexuelle, à moins qu'ils nous posent des questions, et qu'en premier lieu, on demande au petit gars « As-tu une amoureuse? » sans présenter d'autres options, et vice-versa pour les petites filles. Catégorisons-nous nos enfants dès la naissance en leur imposant qu'ils seront droitiers ou gauchers? Non. C'est vrai qu'il y a une sorte d'automatisme à leur faire utiliser la droite, mais nous arrivons vite à l'essai erreur quand ils nous montrent qu'ils sont peut-être plus à l'aise avec l'autre main. Et au fond, c'est aussi simple que ça. Nous ne devrions même pas nous poser de questions, mais plutôt attendre qu'ils nous le montrent, tout simplement, en les aidant ici et là, en leur proposant parfois l'option, en montrant dès le départ que les deux se valent, que les deux existent. Mais Lou, montrez-moi donc de quel côté vous vous débrouillez le mieux et je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à écrire de beaux mots. Et il termine son texte par hashtag amour inconditionnel. J'aime ça. C'est un billet de fier père publié dans la section blog du site naître-et-grandir.com le 25 octobre.
Oh, petits enfants, faites un effort. C'est votre papa qui s'endort. Arrêtez de courir, non, ça ne me fait plus rire. Ne me faites pas mourir de ma belle mort. Demain je dois travailler. J'ai votre vie à gagner. Oh, petits enfants, fermez vos petits yeux. Serrez vos petits poings jusqu'à demain. Dormez. Allez. Oh, 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 petits enfants, soyez gentils pour votre papa qui vieillit. Il est sorti hier soir et il est rentré trop tard. Il ne veut que revoir son grand lit. Il vous aime, croyez-moi, surtout quand vous êtes en pyjama. Demain soir, c'est promis, nous jouerons jusqu'à minuit. Je ferai le train, le cheval et le chien. Allez dormir. Mmh. faites un effort, c'est votre papa qui s'endort.
Mon micro est haut. Oh, petits enfants, que nous chantait Michel Rivard.
Alors, petits enfants, les enfants pourront voter dimanche à Montréal. Alors, c'est les élections le 5 novembre. Et les enfants, pour la première fois de son histoire, la Ville de Montréal permettra au moins de 18 ans de voter aux élections municipales. Les jeunes ne pourront pas décider qui occupera la mairie pour les 4 prochaines années. Ça sera les grandes personnes qui vont décider ça, mais ils pourront tout de même faire connaître leurs priorités à la prochaine administration de la métropole. Dans le cadre d'un projet pilote, Élection Montréal mettra en place 19 petits bureaux de vote, c'est comme ça qu'on les appelle, afin de permettre aux jeunes de s'exprimer. Les enfants seront appelés à répondre à une question sur la gestion de la métropole, et cette question, c'est « À Montréal, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? » Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre du programme « Électeurs en herbe » lancé par le directeur général des élections du Québec. On diffusera les résultats comptabilisés dans les petits bureaux de vote à la suite de la diffusion des résultats électoraux. Élection Montréal évaluera les résultats de ce projet pilote pour déterminer si les petits bureaux de vote seront étendus aux 470 lieux de vote lors du prochain scrutin en 2021. Les enfants n'ont pas besoin d'être inscrits à une liste électorale pour voter.
C'est génial.
C'est génial. Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Les voix de Service Magazine se poursuivent après la pause. Mm-hmm. À tout de suite.
Personne, n'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que le soleil n'a jamais jugé personne. Avouez que le soleil, c'est sans compter qu'il se donne. Et ce n'est pas la nature, mais bien la nature de l'homme qui nous fait parfois conclure qu'on peut n'être ni tant personne. Quand midi sonne, être un point sur le papier, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. Avouez que nos grands livres ne tiennent plus vraiment la route, quand nos idéaux dérivent, quand nos rêves sont en déroute. Avouez qu'on sacrifie pour l'ordre ou son semblant des nations que l'on oublie dans la cendre et le sang. Quand midi sonne, être un pion sur l'échiquier, n'être personne, ouh, 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 seulement surpris si s'étendent l'orgueil et le mépris. Oui, sommes-nous seulement surpris si en certains soirs on se dit: avouez que tout se tient, tout est bien amalgamé, et que l'homme est une femme ou cet enfant basané. Avouez que l'humanité s'accorde au singulier, et que nous sommes faits de chair, d'eau, de feu, de fumée. Quand midi sonne, être maître ou sacrifié, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne, n'être personne. N'être personne. N'être personne. Quand midi sonne,
Luc de la Rochelière, naître personne, naître comme le verbe naître, N-A-I, accent circonflexe,
c'est ça que je me posais comme question.
Tiré de son album Autre Monde, paru en 2017.
Alors, j'aime ça ce lien, Mathieu, parce que pour être quelqu'un, il faut parfois être persévérant, puis la persévérance, ça s'apprend.
Merci.
Et voilà le lien. C'est le titre d'Amélie Cournoyer qui a été publié sur le blog alloprofparents.qc.ca le 11 octobre. Le parcours scolaire est semé d'obstacles et de défis que les enfants doivent apprendre à surmonter pour réussir. Mais faire preuve de persévérance n'est pas toujours facile pour un jeune. En tant que parent, il existe des façons de soutenir votre enfant dans cet apprentissage. Découvrez les attitudes et comportements que les experts de la future plateforme d'Alloprof Parents suggèrent de privilégier. La persévérance, c'est la faculté de poursuivre son objectif malgré les difficultés, de se montrer tenace et déterminé devant les obstacles. Cette qualité peut aider le jeune à s'épanouir dans plusieurs sphères de sa vie, et pour l'élève, elle représente un atout indéniable dans sa réussite scolaire. Loin d'être inné, la persévérance est le fruit d'un apprentissage que l'enfant pourra acquérir grâce au soutien d'adultes significatifs. À cet égard, les parents peuvent être, pour leur enfant, des modèles marquants. En enseignant la persévérance à son enfant dès son plus jeune âge, le parent l'aidera à prendre conscience de ses talents et à déployer son plein potentiel. Il lui fournira aussi les outils nécessaires pour devenir autonome et responsable, et il favorisera le développement de sa confiance et de son estime de soi. Évidemment, ces apprentissages lui seront utiles tout au long de son parcours scolaire. Par exemple, pour y parvenir, le parent peut éviter de faire les choses à la place de son enfant, comme l'habiller ou ranger sa chambre. Note à moi-même. Le faire participer aux tâches ménagères en lui donnant des corvées adaptées à son âge. Évidemment, il est important d'abord et avant de lui exprimer ses attentes pour ensuite le laisser aller quand il aura bien compris. De plus, qu'il s'agisse d'un devoir, d'un casse-tête ou d'une activité sportive à laquelle il est inscrit, le jeune doit apprendre à terminer ce qu'il entreprend, même s'il perd de l'intérêt ou qu'il rencontre des difficultés en cours de route. Évidemment, ici, là, tout est une question d'équilibre. Il faut doser, il ne faut pas aller trop loin en insistant ou en harcelant les enfants. Parfois, l'acharnement, ça peut faire aussi des ravages. Aussi, il est fortement suggéré de renforcer positivement les comportements du jeune. En effet, celui-ci s'attribue certaines qualités ou défauts selon la façon dont il se sent perçu par les adultes et les enfants de son entourage. Le goût de l'effort ne s'acquiert pas aussi facilement pour tous les jeunes. Cet important apprentissage s'échelonne donc souvent dans le temps et le parent peut poser plusieurs gestes concrets afin de cultiver au quotidien la persévérance scolaire de son enfant. Alors, plusieurs gestes ici qu'on peut poser, s'impliquer dans ses apprentissages, entre autres par le biais des devoirs et leçons, Et à l'école, grâce aux rencontres de parents avec le professeur, aux événements spéciaux et aux différents comités scolaires. Entretenir des attentes réalistes à son égard en respectant son rythme d'apprentissage. Valoriser autant les efforts que les résultats, en soulignant, par exemple, les efforts déployés pour étudier ses mots de vocabulaire chaque soir, plutôt que de le féliciter seulement pour ses performances habituelles en mathématiques. Valoriser l'importance de l'école auprès de son enfant. Fractionner une tâche ou un devoir qui semble trop long ou trop difficile en plusieurs petites étapes plus faciles à réaliser. Mettre en place des mesures favorisant les comportements positifs. Lui démontrer votre confiance en lui et en ses capacités en lui donnant des responsabilités. Inscrire votre enfant à une activité sportive ou une activité parascolaire qui lui permettra de développer son goût de l'effort et du dépassement. Relativiser les échecs en expliquant qu'ils font partie de l'apprentissage et que tout le monde en vit. Miser sur ses forces, ses capacités à surmonter les difficultés sans le comparer aux autres enfants. Lui montrer l'exemple en étant vous-même, autant que possible, motivé, persévérant et positif devant les obstacles. Pour un ado, le parent peut l'encourager à obtenir un emploi rémunéré pour un maximum de 10 heures par semaine. Il ne s'agit pas d'un pas important vers l'autonomie. Toutefois, un nombre d'heures plus élevé pourrait augmenter le stress et la fatigue et ainsi avoir un impact négatif sur sa persévérance et sa motivation scolaire. Puisque l'adolescent n'a pas beaucoup d'expérience, il est important que le parent lui manifeste son soutien pour trouver un équilibre avec ses études, qui peuvent être aussi très exigeantes. Et finalement, parler avec son jeune de ses projets d'avenir, des perspectives d'emploi et de la scolarité. En somme, la persévérance est une qualité que votre enfant pourra développer graduellement, entre autres, grâce à votre aide et à celle des autres adultes significatifs qui gravitent autour de lui. Voilà, ce texte était d'Amélie Cournoyer et il a été publié sur le blog alloprofparent.qc.ca. Alors, on a parlé de persévérance. Maintenant, on va parler de supervision parentale et donc l'influence de cette supervision parentale sur les adolescents. C'est un texte de Bruno Hébert, publié sur le site RIRE, RIRE, le réseau pour la réussite éducative, le 23 octobre. Monsieur Hébert fait référence dans son texte à une étude récente menée notamment par Olivier Godet, qui est candidat au doctorat en psychologie à l'UQAM, et Marie-Hélène Véronneau, professeur à l'UQAM. L'adolescence est une période développementale caractérisée par des changements cognitifs, émotionnels et sociaux rapides chez les jeunes. Dès la transition du primaire au secondaire, les adolescents aspirent à une plus grande autonomie par rapport à leurs parents et laissent progressivement une place plus importante à leur père. En effet, les autres jeunes deviennent une source d'influence importante pour les adolescents. Néanmoins, les parents restent une figure de soutien significative qui a une influence sur la vie et le choix des jeunes. Dans ce contexte, la supervision et l'accompagnement que les parents offrent à leur ado dans ces nouvelles expériences sont des éléments clés pour favoriser une meilleure adaptation. Cet encadrement est appelé la supervision parentale. La supervision parentale regroupe un ensemble de comportements qui permettent aux parents de bien connaître leur adolescent et l'environnement dans lequel il évolue. Par exemple, un parent exerce de la supervision parentale lorsqu'il discute avec son adolescent pour s'informer sur les activités dans lesquelles il s'engage pendant ses temps libres, sur ses intérêts et sur les personnes qu'il côtoie. Établir des attentes claires et appliquer des règles concernant le comportement attendu de la part de son jeune fait également partie du spectre de la supervision parentale. Et cette supervision parentale se divise en trois principales composantes. D'abord, le contrôle parental, c'est la structure imposée par le parent sur le choix des activités, des amis et des périodes de temps libre de son ado. Deuxièmement, la sollicitation parentale qui correspond aux discussions que le parent a avec son jeune qui ont comme objectif d'obtenir de l'information sur ses activités et sur les gens qu'il fréquente lors de ses temps libres. Et dernièrement, la troisièmement finalement, l'auto-révélation, ça réfère aux initiatives personnelles des ados à parler de leur vie avec leurs parents. Par exemple, relater leur journée, partager leurs sentiments. L'efficacité de la supervision parentale est optimisée lorsque les adolescents y contribuent volontairement en s'engageant dans des comportements d'auto-révélation. En fait, c'est cette dernière composante qu'on vise comme parents. Quels sont les effets dans la vie des adolescents? Une étude dirigée donc par Marie-Hélène Véronneau, qui est professeure à l'UQAM et coordonnatrice du laboratoire d'études sur les parcours scolaires et les influences sociales, ça s'appelle le LEPSIS, a examiné les effets de la supervision parentale sur les comportements d'autorévélation des adolescents et leur motivation scolaire de la troisième à la cinquième année du secondaire. D'après cette étude, la sollicitation parentale a une influence significative sur les adolescents. D'abord, les jeunes dont les parents exercent la sollicitation parentale lorsqu'ils sont en troisième année du secondaire auront davantage tendance à émettre des comportements d'autorévélation une fois en quatrième année du secondaire. Ce lien apparaît aussi entre la quatrième et la cinquième année du secondaire. On peut supposer que l'attitude du parent qui incite son jeune à lui parler de sa journée ou de ses activités, ça crée un climat de confiance et de sécurité dans leur relation et ça incite le jeune à se confier avec moins de réticence à son parent. Par ailleurs, la sollicitation parentale en troisième année du secondaire prédit également une hausse de motivation scolaire un an plus tard. La littérature explique que ce lien de la manière suivante, les parents qui émettent des comportements de sollicitation parentale contribuent à diminuer l'adoption de comportements antisociaux chez leurs jeunes, ce qui leur permet ainsi de se concentrer davantage sur leurs études et d'être motivés par celles-ci. Autrement dit, lorsque les parents bâtissent une relation saine et de confiance avec leurs jeunes, en s'intéressant à leur vie et en les questionnant de manière non intrusive, leur adolescent tendrait à adopter moins de comportements contrevenants à une bonne réussite scolaire et ça lui permet, de cette façon-là, de mettre davantage d'énergie sur ses études. Finalement, le contrôle parental émis en quatrième année du secondaire influence positivement la motivation scolaire des participants l'année suivante. Le résultat suggère que la structure définie par les parents peut influencer la vision qu'ont les adolescents de l'école en leur donnant le goût d'y aller et de réussir. Toutefois, c'est important de nuancer ces propos. Certaines études ont démontré qu'un point optimal de sollicitation parentale semble être présent. En effet, se faire poser un trop grand nombre de questions peut être perçu par les jeunes comme intrusif et contrôlant. Alors, le vieux dicton dit « trop », c'est comme pas assez, hein? Voilà, c'est un texte de Bruno Hébert publié sur le site RIRE, le réseau pour la réussite éducative, le 23 octobre.
Sonne le cadran toujours à la même heure. Tu perds pas de temps, tu sautes dans la douche. Puis t'avales un bout de toast avec du beurre et de la confiture qui te colle à la bouche. Tu brosses tes dents, te peignes et puis t'habilles. Tu prends pas le temps de saluer ta famille. Tu sors en courant, t'as peur d'être en retard. Et c'est que le début de la fameuse histoire de l'adolescent X qui crie « Je veux quand même !» L'adolescent cynique qui avance dans un système qui n'étiez pas fait pour lui. Arrive le jour où tu te prends au piège, celui de l'amour, et te voilà qui rêve. T'as besoin de rien que de ses baisers farouches et que de ses mains qui te touchent. Et puis ça va trop loin et voilà qu'elle accouche, et t'as plus de pain pour la nouvelle bouche. Alors adieu l'école, il faut que tu travailles et que tu la consoles, car elle n'a plus la taille de l'adolescente X qui est pas encore maman, l'adolescente typique, la belle femme enfant, la désirable perle. Sonne le cadran de l'âge qui s'enfuit, adolescent et demi, adolescent vieilli. L'alphabet dégringole tout droit jusqu'à Z. À la vie qui s'envole, on n'a pas de remède. Sonne le cadran toujours à la même heure. Être grand-parent, c'est plein de petits bonheurs. Tu te lèves tôt pour allonger tes jours et tu prends le temps de tomber en amour. T'auras jamais compris à quoi ça t'a servi, mais tu n'as plus envie vraiment de le savoir. Tu as connu l'amour et quand tu l'apprécies, faut que le cadran sonne la fin de l'histoire.
L'adolescente X, chantée par Linda Lemay, ça date de 1990. Ça fait longtemps.
Quand même.
Oui, sur l'album Nos rêves.
L'adolescente X a maintenant 28 ans.
De plus.
Le plus, c'est ça. Hein? Alors, YouTube a-t-il avalé vos enfants? C'est un texte d'Alexandre Vigneault qui a été publié dans la presse Plus le 2 octobre. Les ados et quantité de pré-ados ont les yeux rivés sur YouTube. Comment avoir l'œil sur le contenu d'une aussi gigantesque vidéothèque où le meilleur côtoie le pire? La télé a débarqué de leur vie depuis que YouTube y est entré, dit François Richer en parlant de son fils de 16 ans et de sa fille de 10 ans. Ses enfants, comme de nombreux autres ados et pré-ados, ont les yeux rivés sur la populaire plateforme. Qu'est-ce qu'ils regardent? Allez savoir. Il cite d'emblée Cyprien, YouTuber que sa fille adore. Pour le reste, il doit s'informer auprès de ses enfants. Que ce père de famille ne sache pas ce que ses enfants regardent en ligne n'est pas si étonnant. YouTube est accessible en tout temps sur de multiples appareils, mobiles ou non. Et on ne passe pas notre temps à regarder par-dessus l'épaule de nos enfants quand ils ont un téléphone ou une tablette à la main. YouTube prend une place grandissante, en particulier chez les 12-15 ans, a constaté Christine Toer, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, qui dirige une recherche sur le visionnement connecté chez les adolescents. Qu'est-ce que les jeunes y regardent? Des vidéos drôles ou encore des tutoriels pour apprendre des choses utiles ou pas. Surtout, ils regardent des YouTubers, c'est-à-dire des gens qui se filment et diffusent des vidéos où, face à la caméra, ils font part de leurs observations, jouent à des jeux vidéo ou parlent tout simplement de leur vie. Souvent, en cherchant à faire rire. Parfois, c'est inspiré, parfois, ce l'est moins, parfois, c'est juste vulgaire. Ce qui inquiète bien des parents, c'est l'absence de repères. Alors que, à la télévision, des indicateurs comme l'heure de diffusion, la chaîne et l'âge recommandé permettent de pressentir si le contenu d'une émission est approprié ou non pour les enfants ou les ados, il n'existe rien de tel sur YouTube. Anne B. Godbout, qui est maman d'enfants de 9 et 7 ans, connaît Cyprien et juge ses vidéos correctes, ce qui ne la rassure qu'à moitié. « Je ne peux pas savoir s'il va faire une vidéo inappropriée la semaine prochaine », dit-elle. Caroline Simard, mère d'un garçon de 12 ans, trouve que Normand, qui est un autre YouTuber français très suivi, va un peu trop dans les relations hommes-femmes. Elle est toutefois à l'aise avec la majorité des choix de son fils. Craindre que son enfant n'aboutisse sur du matériel trop vieux pour son âge, c'est une peur qui est répandue parmi les parents, n'a rien de farfelu. Puisque l'utilisateur passe d'une vidéo à l'autre en faisant des recherches par mots-clés ou en suivant les recommandations automatisées, le risque de s'égarer sur YouTube est bien réel. Inquiet de voir ses enfants aboutir à des images extrêmes, François Richer a installé des contrôles parentaux sur ses appareils et il gère aussi les heures où le signal Wi-Fi est disponible dans sa maison. Son fils de 16 ans a trouvé un moyen technique de contourner l'interdiction. « J'essaie de contrôler ce qu'il regarde, mais je perds le contrôle », admet le père de famille. Normand Landry, qui est professeur à la TELUC et spécialiste de l'éducation aux médias, croit qu'il est trop tard pour espérer superviser les activités en ligne par des moyens techniques. Si c'est bloqué à la maison, c'est ouvert à l'école ou chez des amis, sur les cellulaires, sur les tablettes, fait-il valoir. Il est plus facile de suivre les jeunes dans leur cheminement médiatique que d'essayer de les empêcher d'y accéder. Or, pour accompagner ces enfants dans leur choix, il faut s'intéresser à ce qu'ils regardent sur YouTube. Les ados ont le sentiment que leurs parents ne comprennent pas ce média et ne s'y intéressent pas non plus. Peut-être que si les parents s'intéressaient plus à YouTube, ils comprendraient mieux ce que les jeunes y trouvent, soulève la professeure Christine Thauer. Les ados ne cliquent pas sur n'importe quoi. Ils choisissent des YouTubeurs qu'ils trouvent drôles, intéressants et avec lesquels ils se sentent des affinités. À l'inverse, ils évitent aussi les vidéos dont les thèmes ne les branchent pas. Ce qu'ils recherchent, c'est de l'authenticité. Même dans une vidéo consacrée au maquillage, ce sont les moments où la YouTubeuse parle de sa vie ou de l'école qui accroche les plus jeunes, le plus les jeunes en fait, selon les recherches menées par Mme Thauer. Regarder YouTube, donc, même seul, aurait même quelque chose de social. Les jeunes ont l'impression de faire partie d'un groupe d'amis. Plusieurs YouTubeurs proposent en effet à leurs fans de leur écrire et réagissent ponctuellement dans leurs vidéos aux messages reçus. Ça, c'est vraiment important, souligne la professeure de communication. Le fait de savoir que ce lien existe, que ce dialogue est possible, ça donne aux jeunes un sentiment de proximité. Donc, finalement, il faut s'intéresser à ce qu'ils regardent. Voilà.
Tout à fait.
Un texte d'Alexandre Vignon, publié dans la Presse Plus, le 2 octobre.
Merci, Marie.
Alors, mardi dernier, c'était l'Halloween, le 31 octobre, la fête qui fait peur aux enfants,
oui, là,
ou les enfants aiment avoir peur. À chaque âge, ça peur. Je me suis intéressée à ce qui fait peur aux enfants. De 0 à 6 mois, ce qui fait peur aux petits, c'est tomber, la perte d'appui, les bruits forts ou des objets qui apparaissent brusquement dans leur champ de vision.
Eh bien.
De 7 mois à 1 an, c'est l'angoisse de la séparation, l'abandon, le bain. C'est étonnant,
c'est
le bain, oui, les visages inconnus et les bruits forts. Ensuite, de 1 à 4 ans, ce qui fait le plus peur aux enfants, c'est l'angoisse de séparation. Encore une fois, les bruits forts, l'obscurité, les changements dans l'environnement, le Père Noël, les clowns. Moi, j'ai encore peur des clowns.
En fait, je connais pas un enfant qui aime les clowns.
Moi, j'en connais pas, en tout cas. Et puis, les peurs passagères, par exemple, des orages, des gros chiens. Des enfants de 4 à 8 ans ont des peurs plus spécifiques. Les insectes, des voleurs, des médecins. Des peurs qui sont générées par l'actualité, comme la guerre, les attentats, des catastrophes. Des blessures corporelles. Toujours la séparation, l'abandon, les monstres et les créatures surnaturelles et être seul. Et finalement, les enfants de 8 à 12 ans ont peur des devoirs, des contrôles, de leurs résultats scolaires, des blessures corporelles, des peurs sociales comme la mort et leur apparence physique.
Ouais.
OK.
Marie, gâte-nous avec des mots d'enfant.
Oui, l'adulte, c'est l'âge qu'on a quand on a les pieds très loin dans le lit, selon Violette, 4 ans, et selon Maëlle, 6 ans. C'est juste des enfants qui ont grandi.
Oh.
Ça règle le problème. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci,
merci
à vous.
Beaucoup.
Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, cher Mathieu, d'avoir été là avec et pour moi. On retrouve nos collaborateurs habituels du jeudi matin, Yvan Deslauriers, Monique Kirouac, la semaine prochaine. Au plaisir. Bonne semaine.
Bonne semaine.